allons nous rasseoir et nous préparer à écouter la parole de Dieu. Quel bonheur de réaliser que nous ne sommes que des pèlerins ici-bas, en route vers notre vraie patrie. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à voir ou à placer nos affections sur les choses éternelles, sur les choses d'en haut. Car tout ce qui est d'en bas est appelé un jour à disparaître et à être consumé dans le feu de la géhenne. Mais ce qui vient d'en haut, ce qui vient de Dieu, est donc appelé à demeurer éternellement. Nous allons incliner nos têtes après lui avoir exprimé tous nos sentiments de louange et d'adoration, après lui avoir dit combien nous l'aimons, combien il est merveilleux, nous allons maintenant lui tendre une oreille attentive. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole comme étant une parole qui nous communique la vie, comme une parole, Seigneur, capable de raviver notre intelligence, capable de restaurer notre âme, capable d'embraser notre esprit, nous permettant ainsi, Seigneur, de saisir tout ce qui vient de toi. C'est un moment solennel, un moment où tu veux nous parler. Et parce que, Seigneur, tu veux nous parler, nous aimerions que tu nous aides à rester calme, concentré, Seigneur, afin de recevoir toutes ces perles de ta parole, afin de recevoir tous ces trésors inestimables, Seigneur, de ta parole. Bénis-la dans nos cœurs. Imprime-la, Seigneur, sur nos consciences. Qu'elle puisse, ô Dieu, affiner notre âme. Qu'elle puisse, Seigneur, nous rendre de plus en plus sensibles à ta voix. Capables, ô Dieu, d'accomplir ta volonté et d'être en phase avec, Seigneur, avec toi. Bénis-la, sanctifie-la, dans le nom de Jésus. Amen. Bien, gloire au Seigneur. Nous allons donc continuer avec notre thème. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le deuxième verbe, à savoir le verbe apporter. Nous allons relire cette fois-ci juste le premier verset de notre texte de base, à savoir Agé chapitre 1er. Agé chapitre 1er, le premier verset. Nous lisons la deuxième année du roi Darius, le sixième mois, le premier jour du mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur doit être rebâtie. Alors la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine? Ainsi parle maintenant le Seigneur des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous moissonnez peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez mais pas à votre sou. Vous êtes vêtu sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Montez, apportez et bâtir. Voilà donc les trois verbes d'action qui sont censés nous accompagner pendant ou tout au long de cette année 2014. Plus que des verbes d'action, eh bien ces trois verbes sont trois concepts. Trois concepts qui sont donc ou qui constituent la base, excusez-moi, la base de notre vision pour 2014. Pendant deux dimanches, nous nous sommes attardés sur le premier verbe. Ça valait la peine, mes amis, parce que sans conjuguer ce mot, sans comprendre ce que le Seigneur attend de nous, il est donc impossible de pouvoir nous attendre à de bénédictions en aval. Et par monter, ou du moins par conjuguer ce verbe, nous avons donc mis l'accent sur l'être. Car pour Dieu, aux yeux de notre Créateur, ce que nous sommes est beaucoup plus important que ce que nous faisons. Amen. Ce que nous sommes est beaucoup plus important que les actes que nous posons, quelle que soit leur noblesse, leur grandeur. Pour Dieu, c'est d'abord la personne humaine dans son être, avant de la considérer, avant de la saisir dans son agir, dans son action. Donc, nous avons vu que conjuguer ce verbe monter, c'est agir en amont. Car c'est ce qui est en amont, ce que nous faisons en amont, qui va déterminer ce qui sera, mes amis, en aval. Et qui a-t-il en amont? Eh bien, en amont, il y a le cœur. Encore le cœur et toujours le cœur. Alléluia. Le cœur préoccupe Dieu. Voilà pourquoi, mes amis, Dieu, une fois de plus, nous rappelle cette vérité. Afin que ce que nous faisons, ou nous sommes appelés à faire en amont, ne puisse pas nous aveugler et nous faire oublier ce qu'il y a de fondamental à ses yeux, ce qui lui paraît une priorité en ce qui concerne l'homme, l'homme qu'il a régénéré, l'homme qu'il a tiré du péché, qu'il a libéré de la mort spirituelle et qu'il a introduit dans son royaume. Il ne s'agit pas seulement, mes amis, de semer ou de travailler en amont avec l'espoir de récolter, de moissonner en aval. Mais encore, il faut que ce que nous moissonnons, les actions que nous posons en aval, puissent être, mes amis, des offrandes que Dieu agrée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est l'état de notre cœur qui va donc déterminer la qualité intrinsèque de notre offrande faite en amont, qui va donc déterminer si l'action que nous posons plutôt en aval, eh bien, est une action appelée à être comme du parfum de bonne odeur qui réjouit le cœur de Dieu et qui amène Dieu, mes amis, à être dans la joie de nous voir être actifs pour lui. Gloire au Seigneur. Si c'est une offrande sainte, eh bien, elle sera sainte, elle sera pure parce que venant d'un cœur pur, d'un cœur intègre, d'un cœur qui appartient tout entier au Seigneur, d'un cœur qui est rempli de la crainte du Seigneur. Mais si c'est le contraire, un cœur partagé, un cœur qui vit dans la duplicité, un cœur qui est oblitéré d'une manière ou d'une autre par le mal, qui est esclave de toutes sortes de choses charnelles, eh bien, quoi que nous fassions en aval, notre offrande sera quelque chose d'une odeur désagréable à notre Seigneur. Alors, il est important que nous puissions consacrer plus de temps à ce verbe monter. Mes amis, nous ne devons jamais oublier qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction pour l'homme que d'avoir un cœur pur. Alléluia. C'est le plus grand trésor qui soit. C'est le plus grand bien qui soit, mes amis. Un cœur pur, un cœur intègre, un cœur tout entier à son Créateur. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans les Béatitudes, dans cette introduction au Sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alléluia. Heureux ceux dont le cœur reflète la nature de Dieu. Ceux-là, mes amis, ont l'assurance de le voir lorsqu'il reviendra, alors que la trompette sonnera, mais aussi de le voir après leur mort, et même avant la mort, de le voir déjà dans leur vie de tous les jours. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième verbe, apporter. C'est le verbe que nous sommes appelés aussi à conjuguer tout au long de cette année. Et avec ce verbe, comme je l'ai souligné un tout petit peu la fois dernière, nous entrons dans le domaine de l'action. Nous entrons, mes amis, dans ce que j'appelle l'univers de l'aval, c'est-à-dire de ce que nous sommes censés poser comme acte, de ce que nous sommes censés faire en rapport avec l'œuvre de Dieu, en rapport avec la maison de Dieu. Nous montons sur la montagne en conjuguant ce verbe, non pas, mes amis, avec des cœurs vides, non pas avec des mains vides, mais en apportant quelque chose qui puisse contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous nous approchons donc du Seigneur tout en lui approchant notre offrande. Voilà ce qu'il attend de nous. Apporter quelque chose, poser quelque chose, donner quelque chose, oui. Apporter, c'est donner. Et c'est ici, mes amis, à ce niveau, que le verbe donner revêt tout son sens. Notre Dieu, le plus grand donateur qui soit. Alléluia. Regardez comment il nous bénit, mes amis, en nous donnant, en nous accordant toutes sortes de bénédictions. Je ne cesserai jamais de le dire. Le souffle de vie qui nous anime, le souffle de vie qui nous permet de faire tout ce que nous faisons, de nous mouvoir, de poser des actions, d'assumer telle ou telle autre responsabilité, ce souffle de vie, mes amis, nous ne l'avons pas ramassé, nous ne l'avons pas acheté. Non! Dieu nous le prête, Dieu nous le donne généreusement. C'est le plus grand donateur. Alors si nous voulons être comme lui, nous devrions apprendre, alors que nous montons avec lui, à lui apporter notre offrande. Alléluia. Gloire au Seigneur. Apporter du bois. Tel avait été l'ordre du Seigneur à son peuple en ce temps-là. Le bois qui devait servir à la construction, à la restauration, à la rénovation de sa maison. Mais aussi, le bois qui devait servir à entretenir ce lieu qui était donc censé abriter la gloire, la présence du Dieu d'Israël. Il était donc important que les gens de ce temps-là comprennent que toute grâce excellente, que tout don parfait descende de Dieu. Et pour cela, il fallait que Dieu soit au milieu d'eux. D'où la nécessité de rebâtir le temple. Un lieu où ils devaient le rencontrer. Un lieu, mes amis, où ils devaient s'adonner à toutes sortes d'activités en rapport avec l'œuvre de Dieu. À ce stade, posons-nous deux questions. La première question, qui doit apporter? Y a-t-il une élite au sein de l'Église, de la maison de Dieu, qui elle seule serait habilitée à apporter quelque chose? Ou alors, cet ordre, cette instruction ou cette injonction s'adresse à tous ceux qui se réclament de la communauté de Dieu? Et la deuxième question, qu'est-ce que nous devons apporter? Amen. Gloire au Seigneur. À la première question, qui doit apporter? Eh bien, à l'époque d'Agée, la réponse est claire. Le prophète le dit. Et nous voyons que son message était adressé à toute la communauté qui était revenue de captivité. Le message adressé à Zorobabel, c'était le gouverneur politique, c'était donc l'administrateur. Le message adressé aussi à Josué, le souverain sacrificateur, donc le chef religieux. D'un côté, les responsables politiques, administratifs, qui faisaient partie de la communauté, de l'autre côté, le clergé. Si je peux utiliser ainsi, je sais que dans certains milieux, c'est un terme qui suscite des réactions presque épidermiques. Du moins, les gens du sacerdoce, ceux qui avaient reçu cette responsabilité dans le cadre du culte rendu à Dieu. Et enfin, cette injonction s'adressait également à tout le peuple, quel qu'il soit. Bref, tout le monde était concerné. Peu importe ce que la personne avait dans sa main, il était important qu'il puisse obéir à l'ordre de Dieu. Tous les membres du peuple de Dieu, tous ceux qui étaient sortis de captivité, tous ceux qui avaient le privilège de quitter Babylone, terre d'esclavage, Babylone, terre d'humiliation, et qui étaient revenus dans la terre promise, tous ceux-là, mes amis, peu importe les moyens qu'ils avaient, peu importe leur arrière-plan intellectuel ou autre, tous devaient se lever et mettre la main à la pâte et travailler pour la restauration, pour la construction de la maison de Dieu, mais aussi s'impliquer de manière active dans le règne de Dieu parmi son peuple. Tous devaient travailler à la construction de la maison de Dieu et dans la restauration de son royaume. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Eh bien, ça n'a pas changé. Comme je l'ai souligné, nous sommes appelés, nous sommes concernés par l'œuvre de Dieu, l'œuvre que le Seigneur est en train de bâtir ici à la borne. Chacun de nous est concerné. Nous sommes tous appelés, mes amis, à prendre ou à être les bâtisseurs dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mes amis, c'est une opportunité plus que merveilleuse que le Seigneur nous donne de pouvoir prendre le train qui va bientôt démarrer pour aller travailler sur le chantier du Seigneur ou pour venir travailler sur le chantier du Seigneur parce que il y va de notre rétribution en ce jour-là. Comme nous allons les voir, tout ce que nous faisons pour Dieu, tout ce que nous donnons à Dieu, que ce soit le temps, que ce soit l'offrande, la dîme, que ce soit les actes de largesse ou de générosité, des libéralités que nous posons au nom du Seigneur, tout cela, mes amis, reste inscrit dans le livre de vie. Tôt ou tard, nous le retrouverons. La Bible nous dit, lorsque le juste s'en va, ses œuvres le suivent. Et avant même de le suivre, ses œuvres l'avaient déjà précédé. Alléluia. Gloire à Dieu. Si Dieu nous donne cette opportunité, c'est parce qu'il voudrait nous faire partager sa joie, comme lui-même le dit et comme l'apôtre nous le rappelle, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tous concernés, peu importe qui nous sommes, que nous ayons une responsabilité officielle dans l'Église, un ministère, peu importe sa nature, pasteur, diacre, diaconesse, ancien, responsable des départements, responsable de jeunesse, etc. Peu importe la responsabilité, nous sommes tous, mes amis, appelés à nous lever pour nous impliquer dans le travail de la reconstruction de la maison de Dieu. Nous impliquer, mes amis, dans l'épanouissement de cette œuvre que le Seigneur est en train de bâtir depuis bientôt 30 ans. L'homme qui était au départ de cette œuvre, par qui Dieu a commencé cette œuvre, s'en est allé, est entré dans le repos éternel. Mais le propriétaire de l'œuvre est encore vivant. Aujourd'hui, c'est notre tour. Alors saisissons, mes amis, l'occasion. Saisissons cette opportunité merveilleuse de nous rendre plus qu'indispensables. Car le Seigneur est préoccupé par la construction de son Église. Celui qui le dit et qui nous le rappelle, « Je bâtirai mon Église ». L'Église reste la priorité, mes amis, numéro un du Seigneur. Il veut que cette Église prospère à tous égards. Il veut que son œuvre s'épanouisse pleinement, totalement. Oui, que nous ayons une responsabilité ou que nous n'ayons pas de responsabilité reconnue, mais une chose est sûre. Dès lors que nous avons été au bénéfice de la grâce de Dieu, dès lors que Dieu est avec nous, mes amis, dès lors qu'il a fait telle ou telle autre chose en notre faveur, eh bien, il attend de nous que nous puissions nous lever pour nous impliquer dans la restauration de sa maison, dans la construction et dans l'édification de son œuvre. Amen. C'est d'ailleurs une des meilleures façons de lui exprimer notre reconnaissance. Oui ou non? Seigneur, tu as tant fait pour moi. En retour, je me disponibilise pour toi. En retour, je te donne, Seigneur, ce que j'ai et ce que je suis pour bâtir ta maison. Gloire au Seigneur. Donc tous, nous sommes concernés. Personne ne peut dire, ah oui, mais moi je n'ai pas beaucoup étudié. Ce n'est pas une question d'avoir étudié, une question de diplôme, pas du tout. Ce qui fait la richesse de l'Église, c'est qu'au sein de l'Église, on retrouve toutes les classes sociales. On retrouve les gens avec des différents niveaux intellectuels. Et ça, ça fait une richesse. Voyez-vous? Imaginez-vous un peu une église où il y aurait que des intellos, tous avec des lunettes comme Einstein. Ça très critique, hein, qui passe au filtre de la raison, de l'intelligence, tout ce que le prédicateur dit. Des intellos. Ou alors, supposons qu'une église où il n'y aurait que des incultes. Pas dans le sens péjoratif du terme. Hein. On les manipulerait. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Hein. Là où les gens ne réfléchissent pas. Là où les gens, se sont laissés entraînés dans ce processus du suicide, de leur raison, eh bien, les gens sont manipulés. Hein. On leur dit ceci, ils suivent, hein, comme des moutons des panurges. Hein. Le prophète a dit, ben on le fait. Le bishop a dit, eh ben on agit. On ne se pose pas de questions. Non, ça, ce n'est pas la foi biblique. Nous avons vu 5 fois, réfléchissez. J'en ai parlé là-dessus. Voilà donc, mes amis, nous sommes tous concernés. Personne ne peut s'exclure. Personne ne peut se trouver indigne d'apporter pour bâtir la maison de Dieu. Dieu nous donne. Et croyez-moi, il savait qu'un jour, il nous attirerait à lui. Et c'est pourquoi il a même permis que nous ayons eu ce parcours. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, la Bible nous dit que Dieu avait touché les Égyptiens. On leur avait donné des vases d'or, beaucoup de biens. Ils étaient loin de s'imaginer que cela servirait un jour à être moulé, coulé, pour fabriquer les ustensiles de la maison de Dieu. Pour eux, c'était des dons. Pour eux, c'était des cadeaux. Très bien. Mais Dieu avait un autre projet. Alléluia. Cela a servi un jour à la construction, ou à la création, à la fabrication des vases, des ustensiles, des objets qui devaient servir au culte du Seigneur. Puisque s'il avait sauvé son peuple, c'était pour qu'il se révèle à lui. C'était pour entrer en alliance avec lui et donner à ce peuple l'occasion de pouvoir le servir. Amen. Voilà donc la réponse à cette première question. Qui doit apporter? Vous, moi, nous. Nous sommes concernés par cette injonction. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on doit apporter? Voilà une autre question. Et nous allons nous attarder davantage là-dessus. Pour avancer plus vite, qu'est-ce que nous devons apporter qui puisse contribuer à la construction, à la restauration de l'Église? D'abord et avant tout, nous sommes appelés à apporter ce que nous sommes. Alléluia. Ce que chacun de nous est. Voyez-vous? Apporter ce que nous sommes, et puis ensuite, tout ce que nous avons susceptible de contribuer à la construction de la maison de Dieu et à l'avancement de son œuvre ici, donc à la borne. Voilà donc, mes amis, nous, l'être, ce que nous sommes, et puis ce que nous a. Vous voyez pourquoi j'ai commencé par le verbe être, par le verbe monter, en mettant beaucoup d'accent sur l'être. La première contribution, le premier apport, je dirais, c'est au niveau ontologique, hein, passez-moi l'expression, ce que nous sommes. Soit ce que nous sommes, mes amis, je vais m'attarder là-dessus, contribue à l'édification, à l'avancement du royaume de Dieu, ou alors, ce que nous sommes, notre conduite mauvaise, eh bien, va donc être un obstacle à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être saint comme lui est. Une église est bénie lorsqu'elle baigne dans la sainteté. Une église est bénie, mes amis, lorsqu'elle recherche Dieu de tout son cœur. Lorsqu'elle a compris que Dieu reste la priorité des priorités. Oh, plaise à Dieu que nous ayons des hommes et des femmes qui réalisent qu'ils sont appelés d'abord et avant tout à chercher Dieu. Et seulement après, à rechercher ses bénédictions. On a tellement mis l'accent sur les bénédictions, sur les conséquences d'être avec le Seigneur, qu'on a oublié l'essentiel. C'est ainsi que par nos prédications, par nos enseignements un peu partout, nous avons fabriqué des disciples qui sont plus intéressés par les bénédictions matérielles, par la prospérité physique, plutôt que par leur relation avec le Créateur. C'est ainsi que les gens sont plus attirés par des séminaires aux thèmes très alléchants.
Venez, vous recevrez votre bénédiction matérielle. C'est bien. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. C'est Dieu qui nous a créés avec ce corps. Nous avons besoin d'un certain confort, mes amis, pour être heureux, oui ou non. Oui. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous prospérions, que nos affaires aillent de l'avant. Dieu le veut, mes amis, que tout ce que nous touchons puisse produire. Mais nous ne devrions jamais oublier que ce qui le préoccupe d'abord, c'est ce qu'il y a en amont. Je me permets de revenir là-dessus, et en amont, il y a le cœur. C'est l'état du cœur qui fait toute la différence. Alléluia. Donc, contribuer à l'édification du corps du Christ par ce que nous sommes. En venant au Seigneur, nous ne sommes pas devenus des êtres ex nihilo, c'est-à-dire venus de rien. Voilà, il y en a qui confondent le fait de naître de nouveau avec le fait de... C'est comme si on venait, pof, c'est fini. Aucune culture. Et on est là, comme des anges. Mais non, nous gardons notre personnalité. Hein? Alléluia. Nous gardons notre personnalité. Nous gardons nos... Si nous avons eu des diplômes, mais ça fait partie de nous. Alléluia. Si nous avons telle ou telle autre chose, telle ou telle autre compétence, eh bien, lorsque nous venons au Seigneur, nous venons avec ce bagage-là. Et nous sommes donc censés apporter cela, cette fois-ci, pour la construction de la maison de Dieu. Alors qu'autrefois, nous utilisions cela, nos titres, nos grades universitaires, mes amis, comme des Oscars à brandir à nos adversaires, à chaque fois que quelqu'un vous dit, « Ah, n'oublie pas, attention, je viens d'Harvard. Voyons. Ah ouais, moi j'ai étudié à Oxford, etc. » Il y en a qui sont même prêts à mentir. Je connais un aventurier, je pèse le mot, un aventurier tout fait. Il est venu dans notre église. Un mythomane. Il est venu sévir ici. Il a fait beaucoup de bruit, je ne veux pas citer son nom. Comme juriste. Et jusqu'à ce qu'un jour je tombe, j'étais de passage ici, sur un journal qui le décrivait comme étant un grand intellectuel qui avait fait ses classes à Harvard, à Oxford. Je venais le voir une fois. Une fois, je le rencontre à Bruxelles, pasteur, mon aîné. Mais j'avais appris qu'il sévissait ici, les médias lui avaient donné une tribune. Mais déjà, là-bas en Europe, c'était un mythomane. Il s'est présenté comme travaillant à la City, hein, donc à Londres, dans les plus grandes banques, un aventurier. Il avait quitté sa femme, il a engrossé une fille qui venait à l'église chez moi. Oui, je sais. Et je sais qu'il a fini par remorquer la femme d'un homme politique qui n'est plus. Il a remorqué. Si je crois que je dois avoir gardé l'extrait de ce journal. Ça m'avait tellement choqué. Vous voyez, réveillons-nous. Hein? Ce n'est pas parce qu'on vient de la diaspora qu'on a un diplôme. Oui ou non? Nous avons des gens qui ont été formés ici, qui sont plus intelligents, plus instruits. Voyez-vous? Bref, tout ce que nous sommes, nous devons le mettre au service du Seigneur. Nous devons apporter cela pour la construction de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous venons au Seigneur, il nous lave, il nous purifie avec notre bagage, notre patrimoine intellectuel, avec nos compétences, quelles qu'elles soient. Et notre Église, là-bas, on a besoin de vos compétences. Que ce soit en matière économique, que ce soit en matière financière, que ce soit en construction, en architecture, en droit, nous en avons besoin. Mettez cela au service de l'Église. Alléluia. Oui, tout cela fait partie de ce que nous devons apporter au Seigneur. Parce que moi, j'ai vu des gens, bon, ils n'ont pas eu l'occasion d'étudier ou ça n'a jamais marché. Ils ont refait la quatrième année 6 fois, ils ont abandonné. Et puis, ils se tournent vers le Seigneur et quand ils s'adressent aux gens, ils condamnent ceux qui ont étudié. Non, pourquoi? 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 Voyez? Donc, alors concrètement, c'est quoi l'Église? Puisqu'il faut apporter.
rapidement, l'Église est d'abord une communauté. Une communauté que nous constituons, composée des hommes et des femmes, qui confessent le nom de Jésus-Christ, qui croient dans sa divinité, qui croient dans son œuvre de rédemption, son œuvre expiatoire accomplie à la croix de Golgotha, qui croient que la vie éternelle se trouve en lui et en lui seul, qui reconnaissent, mes amis, tous ses attributs, qui confessent son nom, qui acceptent sa parole comme étant la seule règle, leur seule règle en matière de foi, de morale et d'éthique, eh bien cette communauté-là, ça s'appelle l'Église et c'est ce que nous sommes. Alléluia. Nous ne prêchons pas autre chose que la parole de Dieu. Notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Ce qui fait notre éthique, ce qui inspire notre moralité ou notre morale, eh bien c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la communauté. La deuxième chose, l'Église, c'est aussi un lieu et des activités qui s'y déroulent. Et dans ce cas, l'Église, c'est le cadre qui nous accueille ici dimanche après dimanche. Alléluia. Le cadre avec différentes activités, toutes en rapport avec l'œuvre de Dieu. Donc, parler de bâtir la maison du Seigneur, la maison de Dieu, c'est donc travailler sur le deux niveaux, en apportant ce que nous sommes et ce que nous avons. Alléluia. Travailler sur le plan de la communauté, apporter ce que nous sommes à la communauté, la borne, communauté que nous constituons, en même temps, travailler par rapport au lieu, le lieu qui nous accueille, en apportant ce que nous avons pour permettre à ces lieux d'être toujours un lieu qui nous accueille dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi, que ça soit un cadre confortable. Voilà donc, mes amis, ce à quoi nous sommes appelés à travailler. Amen. Ce que nous sommes vis-à-vis de cette communauté, voyez-vous, mais aussi ce que nous avons vis-à-vis de cette communauté et vis-à-vis du lieu qui abrite la communauté. Et donc ce lieu est important. Si vous pouvez me suivre avec attention, eh bien c'est parce que vous êtes bien assis, oui ou non? Imaginez-vous un peu, si vous étiez assis sur le devant, à un certain moment ça penche un peu, vous devez à chaque fois, vous seriez distrait. Et nous voulons justement que notre église, que la borne soit un cadre confortable, que les gens viennent s'asseoir et écouter la parole de Dieu et repartir. Qu'ils viennent, mes amis, et qu'ils ne se laissent pas bercer par la chaleur. Car au deuxième culte, je peux vous assurer, et quelquefois j'ai pitié de certaines personnes, vous les voyez là, en train de me faire des courbettes. Tout simplement parce qu'il fait chaud. Mais donc il faut que ça soit un cadre, que nous arrivions un jour à fermer, alléluia, après avoir agrandi. Et pour que ça grandisse, il faut que nous apportions quelque chose, alléluia. Donc, nous devons apporter ce que nous sommes à cette communauté, mais apporter en même temps ce que nous avons à cette communauté et au lieu qui accueille cette communauté pour pouvoir soutenir toutes les activités qui s'y déroulent. Ce que nous avons, c'est-à-dire ce sont ces différents dons que nous faisons. Ça veut dire ce sont toutes ces offrandes. Voilà pourquoi dimanche après dimanche, nous vous donnons l'occasion d'apporter quelque chose. Voilà pourquoi dimanche après dimanche, nous vous donnons les offrandes, plutôt les paniers, pour que non seulement les offrandes, mais que vous mettiez votre dîme. Tout cela est censé, mes amis, apporter, permettre à l'Église d'avancer, de s'organiser et d'aller de l'avant. Et ceci est quelque chose qui est en rapport avec la volonté de Dieu. Bref, qu'est-ce qu'il faut apporter? Eh bien, tout ce don, on a besoin pour entretenir ces lieux. Chaque dimanche ou avant, il y a des sœurs, des frères qui nettoient. C'est pourquoi c'est propre. Mais il faut acheter les produits de nettoyage, oui ou non? Voilà. Il faut éclairer. Et pour cela, il faut payer les factures de la SNEL pour notre témoignage. Si vous ne payez pas, vous volez l'État. Et vous volez Dieu. Faut payer, c'est normal. Je revenais pendant le séminaire avec papa Simon, le chauffeur. J'arrive à ce niveau. Mon attention est attirée par deux jeunes gens. Il y a un moment où la chaussée ici se rétrécit. Et quand on arrive à leur niveau, eh bien, ils étaient en train de sectionner un câble de la semelle. Mes amis, et vous vous plaignez que nous plaignons que nous ayons des problèmes avec la semelle? Soyons de véritables citoyens. Ce pays, c'est Dieu qui nous l'a donné, oui ou non? Mais si vous ne prenez pas soin de ce pays, Dieu n'enverra jamais les anges. Vous pouvez jeûner. Vous pouvez passer des nuits entières à dormir à même le sol, en priant en langue. Mais si vous ne vous levez pas, si vous ne changez pas de mentalité, si nous ne nous levons pas, nous ne changeons pas de mentalité, eh bien nous continuerons à détruire notre propre pays. Et nous serions le premier à vanter ce qui se passe ailleurs. Oh Paris, la tour Eiffel. Vous pensez que la tour Eiffel est tombée comme ça du ciel? Oh, j'étais à Manhattan. Oui, c'est bien, on fait des photos. Vous pensez Manhattan est arrivé comme ça au hasard? Il y a eu des bâtisseurs, non? Et pour cela, il a fallu payer un prix. Alors Dieu faisant bien les choses, bon, je ne pouvais pas les interpeller, au risque de ramasser un caillou, je ne sais pas quoi. En avançant, je vois une camionnette de la SNEL. Je les ai arrêtés. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai dit à papa, si m'arrête, fais descendre la vitre. Il a fait descendre la vitre. J'ai dit, chef, la barre. Allez-y vite, on est en train de sectionner les câbles pour voler parce qu'ils avaient une lampe. Une lampe pour tester. Vous voyez, mes amis, nous détruisons notre propre pays et nous sommes les premiers à dire Hamboka Yango et Kobonga. Mais c'est toi le responsable, c'est moi le responsable. Je ne dois pas jeter la balle aux autres. Si ça ne va pas, c'est à cause de moi. Voilà. Parce que je ne fais pas ce que je dois faire. On se plaint. On ne paye pas ses factures. On vient, on jeûne. Mais la semaine emploie des frères. Papa mal est là. Vous pensez qu'on va le payer avec quoi? Il a besoin de donner sa dîme à l'église, d'apporter. Maintenant, si vous ne payez pas, nous ne payons pas les factures. Il va se retrouver au chômage. Et après un jour, nous serons le premier à dire, oh, prions pour qu'on lui donne le travail. Du haut du ciel, le Seigneur nous regarde et dit, non, vous êtes des aventuriers. Nous devons enseigner ces choses. Gloire à Dieu. Nous avons la responsabilité. Comme il avait dit à Adam, il lui avait donné le travail. C'était à Adam de veiller sur le jardin d'Éden, oui ou non? C'était à lui de l'entretenir. Il nous donne la même responsabilité. Il ne enverra jamais des anges. Et la prière à elle seule ne suffira jamais. La prière a sa place, mais le travail a sa place. Alléluia. Vous voyez? Parce qu'il y a la confusion. Vous voyez? Et c'est comme ça que beaucoup profitent de cette situation pour manipuler les gens, et les embrigader mentalement et en faire leurs objets pour qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. C'est comme ça que, bon, on a suivi que l'État va sévir. Ah oui. Nous sommes dans un état de droit. Et je suis convaincu que certains pasteurs crieraient à la malédiction en disant, oh là 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 là, c'est le diable qui nous persécute. Non. Nous sommes dans un état de droit. On doit savoir qui vous êtes. Vous prenez les gens dans votre lit gabelot. Vous commencez à faire des prières. Vous priez pour des gens. Ils vous donnent l'argent. Mais l'État doit savoir. Vous êtes qui? Oh non, le Seigneur... Non, non, ça c'est le désordre. Donc, nous devons apporter à la communauté, nous devons apporter au lieu, frères et sœurs, le moment est venu pour chacun de nous de se donner à Dieu en premier et de donner à l'Église ce dont elle a besoin pour son édification, pour sa croissance, que ce soit sur le plan spirituel et moral, ça c'est la communauté par ce que nous sommes, que ce soit sur le plan physique et matériel, par ce que nous apportons comme don. C'est de cette manière que nous arrivons à construire, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ce, sur tout le plan. Sur le plan moral, sur le plan spirituel, parce que nous sommes. Vous savez que la sanctification ou la sainteté est contagieuse. Plus vous êtes avec des gens qui craignent Dieu, plus vous craindrez Dieu. Et si vous êtes avec des aventuriers, des gens avec un relâchement au niveau des mœurs, des gens qui font tout ce qu'ils veulent, même si vous étiez au départ très saint, vous allez voir que votre sainteté va s'effriter. Vous allez commencer à trouver normal et même à vous trouver anormal. Ah, j'ai l'impression que c'est peut-être eux qui ont raison. Mais je suis un homme, non? Comment je peux me torturer? Voilà. Oh, mais je suis une femme, non? Nazapemoto. Petit à petit, donc avant tu n'étais pas moto. Vous voyez, c'est ce qui arrive. Parce qu'on est au contact de gens qui ont une autre vision de la vie, qui ont une autre vision du monde, qui ont des valeurs à eux. Et ces valeurs-là sont donc aux antipodes de nos valeurs à nous. Vous voyez? Donc nous devons nous lever et apporter ce que nous sommes, tout en apportant ce que nous avons. Alléluia. Et avant de terminer, je vais prendre deux ou trois exemples pour montrer l'importance et la bénédiction qu'il y a. Le premier exemple, c'est celui d'un homme. Beaucoup ne le connaissent pas sous ce nom-là. Un homme qui va jouer un grand rôle dans l'église naissante à Jérusalem, un peu partout. On va le retrouver en mission aux côtés des grands noms comme Paul. Mais ce qu'on oublie dans la plupart des cas, c'est que cet homme avait compris qu'il fallait monter avec le Seigneur et en même temps apporter pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Cet homme s'appelle Joseph, pas Joseph Bondour, mais Joseph qui sera débaptisé et à qui les apôtres donneront un autre nom de Barnabas, fils de l'exhortation, fils d'encouragement, fils de consolation. Qu'est-ce qui avait amené les apôtres à changer, mes amis, son identité? Qu'est-ce qui avait amené les apôtres, mes amis, à changer son nom? Et à chaque fois qu'il appelait par son nom Barnabas, les apôtres, mes amis, rendaient grâce à Dieu pour ce que cet homme avait fait par rapport à l'église. L'église qui était dans le besoin. Barnabas, fils d'exhortation, fils d'encouragement, fils de consolation. Il était originaire de Chypre, cette grande île de la Méditerranée. Il s'était converti. Il avait commencé à suivre les apôtres. Et il avait tout de suite compris qu'il ne suffisait pas simplement de monter, mais encore d'apporter pendant qu'on montait. La Bible nous dit dans Actes 4, versets 32 à 37, que cet homme, surnommé Barnabas, eh bien ce frère va vendre ce qu'il avait. Alléluia. Il vendit son champ, le champ qu'il possédait, le champ qui était son trésor jusque-là, parce qu'il avait compris qu'il y avait là un besoin par rapport à l'église. Et la Bible nous dit qu'il vendit son champ, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Et par rapport à ce geste, les apôtres, dans un élan de reconnaissance envers le Seigneur, mais en même temps, mes amis, de reconnaissance envers cet homme qui avait compris que l'église qui commençait était confrontée à des besoins, il fallait envoyer les missionnaires, il fallait se structurer, il fallait s'organiser, cet homme est venu avec le produit de la vente de son champ, déposer cela aux pieds du Seigneur. Alléluia. Barnabas. Quand on parle de cet homme, on le voit seulement en mission avec Paul. On le voit aux côtés des apôtres. Mais ce qu'on oublie, c'était un homme qui avait compris et qui avait accepté de perdre apparemment, accepté de s'appauvrir apparemment pour enrichir l'œuvre de Dieu. Quel exemple de générosité, quel exemple de libéralité, mes amis. Dieu n'est pas insensible à tout ce que nous posons comme geste en faveur de son œuvre. Tout ce que nous faisons dans le cadre de l'Église, mes amis, tout ce que nous donnons et tout ce que nous apportons en ce qui concerne ce que nous sommes et ce que nous avons, cela est grand aux yeux de Dieu. Ça peut être simplement 100 francs, ça peut être 500 francs,
ça peut être 1 000 $ ou plus, peu importe le montant, pourvu que cela vienne d'un cœur reconnaissant envers le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, les apôtres lui ont fait confiance. À partir de ce moment-là, Dieu a commencé à élever cet homme. Il va l'amener jusqu'à chevaucher les hauteurs. Comme Ésaïe 58 le dit, dans ce chapitre d'Ésaïe 58, 12 à 14, il est question de ceux qui reparent les brèches, oui ou non, de ceux qui rebâtissent sur d'anciennes fondations. À ceux-là, le Seigneur donne la promesse de le faire chevaucher, littéralement. Alléluia. De le faire chevaucher les hauteurs. Et quand on parle de hauteur, on parle de l'élévation. Alléluia. Voilà la vraie élévation. Mais les réparateurs de brèches, le restaurateur de ceux qui étaient tombés en ruine, eh bien, ce sont tous ceux que Dieu utilise, ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre, mes amis, à faire avancer l'œuvre. Et Barnabas, par l'argent qu'il avait apporté, après avoir vendu son champ, a permis aux apôtres de pouvoir réorganiser l'Église, de pouvoir, mes amis, pourvoir aux besoins de l'Église, permettre à l'Église de prêcher l'Évangile pour pouvoir réparer les brèches morales dans la vie des gens. Combien ont été sauvés parce qu'ils avaient reçu la parole à partir de l'argent que Barnabas avait apporté. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui le sait. Il a simplement apporté alors qu'il montait avec le Seigneur. Et Dieu s'est souvenu de lui. Amen. Nous le retrouvons, mes amis, aux côtés de Paul. C'est d'ailleurs lui qui va prendre Paul et qui va l'amener le présenter aux apôtres. C'est Barnabas, hein? Voyez? Certes, plus tard, Paul sera plus utilisé que lui. Mais peu importe, Barnabas a fait ce qu'il pouvait. Alléluia. Et il aura sa rémunération en fonction de ce que Dieu lui aura demandé. Il a amené Paul, hein? Il a convaincu les apôtres. Il a dit, non, ne vous en faites pas. Cet homme, certes, a été criminel, mais cet homme a changé. Alléluia. Cet homme a changé. Il est maintenant avec nous. Il va l'accompagner. Nous le retrouvons à Antioche, où il nous est dit qu'après qu'il jeûnait, qu'il célébrait le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tout a commencé par ça, mes amis, par quelque chose de matériel. Et petit à petit, Dieu a élevé cet homme. Aujourd'hui, nous parlons encore de lui. Or, en son temps, il y avait des riches propriétaires à Chypre, oui ou non? Il y avait des riches propriétaires à Jérusalem, dont certains s'étaient convertis, mais on ne nous en parle pas. Voyez-vous, mes amis, ce que nous faisons pour Dieu reste inscrit à jamais dans les annales de l'éternité. Alléluia. Car ce que nous faisons, je terminerai par là, ce que nous faisons pour Dieu, ce que nous apportons à Dieu, que ce soit nos prières, que ce soit nos offrandes matérielles, nos aumônes, le geste posé en faveur des autres, tout cela n'est pas comme de la vapeur qui monte, certes d'une odeur agréable, et qui par après s'évapore. Non! J'aime le texte de Cornée, acte 10. Littéralement, cet homme avait cru en Dieu. Il était à la tête d'un bataillon, d'un régiment constitué des Italiens qui étaient stationnés, nous sommes à l'époque romaine, stationnés en Israël. Et il avait cru en Dieu, il priait, il faisait beaucoup de bonnes œuvres, mes amis. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant qu'il était en prière, l'ange lui apparaît. L'appelle par son nom, Cornée. Il dit, Seigneur, qu'y a-t-il? Il dit, tes prières et tes aumônes ont été entendues. Ça, c'est ce que nous avons dans nos versions françaises. Je veux vous donner cela littéralement, ce qu'il a dit. Tes prières et tes aumônes se sont dressées en mémorial devant Dieu. Un mémorial, c'est un monument ou un musée commémoratif. Quelque chose qui sert à commémorer un événement, qui reste là, dans l'espace et dans le temps. Les hommes passent, mais le monument est là. J'ai eu l'occasion de visiter le musée de la Shoah, le Yad Vashem en Israël. Et mes amis, quand vous y allez, eh bien, vous êtes transportés, vous faites un petit saut dans le passé. Et vous voyez comment ce peuple a souffert. Les restes des vêtements, des bagues, des ceci, de tout cela. Et quand vous sortez de là, eh bien, vous n'êtes plus le même. C'est un musée. Et quand vous y allez, eh bien, vous êtes en face de la Shoah, sans l'avoir vécu, oui ou non.
Mes amis, nos prières, ce que nous apportons au Seigneur, nos œuvres, tout cela se dresse devant Dieu comme un mémorial. Dieu regarde, c'est devant lui. C'est devant lui. Quand bien même nous, on oublierait, lui n'oublie pas. Tôt ou tard, à cause de ce mémorial, il se lèvera. Il dira, oui, à tel jour, il a fait ceci. À tel autre jour, il avait fait cela. Maintenant, je m'élève de mon trône et je vais à sa rencontre. Voilà comment Dieu agit. Les œuvres parlent à notre faveur. L'offrande parle à notre faveur. Tabitha a été ressuscitée par Pierre. Mes amis, non pas parce que c'était une femme spirituelle, c'était une femme, une disciple du Seigneur. Mais la Bible nous dit, on a fait venir Pierre, qui était quelque part, jusqu'à Joppé. Et quand Pierre est arrivé, il a trouvé des veuves en train de pleurer. Les veuves lui ont montré simplement les manteaux, les robes que cette femme faisait pour elle. Elles ont étalé leurs œuvres, ses œuvres. On dit voilà. Pierre a regardé toutes ces veuves qui étaient habillées grâce à Tabitha. Toutes ces femmes qui étaient là grâce à Tabitha. Il a été touché. Il est monté. Il a prié. Il ramène Tabitha à la résurrection. Qu'est-ce qui a parlé? Ce sont ses œuvres. Là où elle était bien, non? Paul a dit qu'un chrétien mourir, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais pourquoi Dieu l'a ramenée? Parce qu'elle était bien, non? Les œuvres, les pleurs de veuves, non pas parce qu'elle jeûnait trois fois par semaine. C'est pas mauvais le jeûne, mais parce qu'elle était généreuse. Elle s'occupait de ceux qui étaient dans le besoin. Et ses œuvres ont fini par parler en sa faveur. Elle est revenue à la vie, même si la Bible ne le dit pas, elle a poursuivi avec les bonnes œuvres. Acclamons le Seigneur. Mes amis, nous sommes appelés à apporter. Pendant que nous montons, nous apportons quelque chose. Alors ne vous lassez jamais de faire le bien. C'est vrai, quelquefois on a donné aux aventuriers. Et les gens sont devenus très très réticents. Certes, oui, il y a eu des aventuriers. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu cela que nous devons nous empêcher, nous, de donner comme il faut. Alors je vais demander à chacun de nous d'incliner sa tête dans la prière. Et de vous mettre face à cette parole. Nous devons donner en montant, apporter ce que nous sommes, nos compétences, ce que nous avons, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout. Tu es un Dieu qui nous bénit généreusement. Tu nous demandes de monter, non pas avec les mains vides et les cœurs vides, mais avec les cœurs remplis de ta grâce, remplis de ta présence, mais aussi avec les mains remplies de ce que nous avons reçu de toi. Seigneur, peu importe la nature de ce que nous avons dans notre main, ce que tu demandes, c'est que nous puissions te les apporter, afin que cela contribue à la croissance, à la restauration, à l'édification de ton corps. Bénis tous ceux qui ont compris ce message, et donne-leur, Seigneur, de donner ce qu'ils sont, mais aussi ce qu'ils ont, pour qu'ensemble nous bâtissons ton œuvre ici à la borne. Merci maintenant de poser ta main sur ces offrandes qui vont passer, Seigneur, qui est une occasion pour nous d'apporter, alors que nous sommes montés à ta maison, t'apporter pour bénir ton œuvre, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.